très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. J'ai une heure chaque jour pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur le business des fleurs. Aujourd'hui, la boutique physique est toujours là, mais le secteur fait sa révolution avec des bouquets plus éthiques et un nouveau modèle économique. Elle est un champion français, notamment du code barre. Armor, la Nantaise, est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Enfin, vous voulez trouver le tatoueur qui vous correspond. La solution s'appelle Find My Tattoo. On en parle à l'occasion du Mondial du Tatouage. Il ouvre ses portes dès demain à Paris. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez nous dire si vous aussi, tiens, pour la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, vous offrez des fleurs, Anissa.
Oui, venez nous dire comment vous aimez vos fleurs, est-ce que vous les aimez françaises? 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également commenter, tweeter, venir témoigner avec le hashtag Europe 1.
Eh oui, il s'en vend chaque année des fleurs en France, 22 millions de bouquets. En un seul jour, aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, c'est plus d'un million qui va finir d'ici ce soir dans un vase à la maison. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le marché est en train de se réinventer sous l'impulsion de nouveaux acteurs qui cassent les codes en France. Pour les accueillir aujourd'hui, à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, décidément très en phase avec le thème du jour, puisqu'elle a mis une fleur rouge dans ses cheveux. Bonjour Catherine Testa.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Fondatrice du club des Chief Happiness Officers. Alors c'est vrai qu'avant, hein, pour aller acheter un bouquet de fleurs, on poussait tout simplement la porte du fleuriste du quartier. Le marché a beaucoup changé finalement en une trentaine d'années, notamment grâce à vous, François de Maublanc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'un des fondateurs d'Aquarelle. Il y a 30 ans, quand vous êtes arrivé, la boutique physique existait encore. C'était le lieu idéal pour acheter des fleurs. Vous avez commencé, vous, à révolutionner un peu le marché.
On a commencé par les boutiques aussi, parce que le métier, ça s'apprend quand même. C'est pas un
une trentaine
si
de boutiques. Hein.
Voilà, c'est quand même un métier où il faut apprendre à travailler ce produit magnifique. Et à un moment, on s'est orienté, comme les nouvelles technologies arrivaient, vers autre chose.
Oui, vers 97 à peu près, vous commencez à vous dire qu'Internet, c'est peut-être
Internet en 97, oui. Alors à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sites et encore moins d'internautes. Donc c'était pas très facile de trouver des clients, mais avec une promesse qui était, même si vous les envoyez loin, vous êtes sûr du bouquet qui est livré, puisque c'est nous qui le fabriquons. Et donc on maîtrise la chaîne d'un bout à l'autre, ce qui n'était pas toujours le cas quand un fleuriste, même très bon, n'avait pas les fleurs disponibles pour faire le bouquet qu'on lui demandait de faire à l'autre bout de la France. Ce n'était pas forcément du tout une question de qualité du fleuriste, mais si je voulais des tulipes jaunes et qu'il n'en avait pas, il ne pouvait pas livrer des tulipes.
Là où vous avez senti bien les choses, hein, j'ai envie de dire, c'est qu'un an plus tard, en 1998, vous décidez de mettre en photo le bouquet que vous expédiez. Ça veut dire que la personne qui a composer, envoyer le bouquet, elle sait à quoi ressemble le bouquet final. Parce que ça, c'est un vrai problème quand on fait livrer des fleurs.
Et elle vérifie, parce que je peux vous assurer que les photos sont consultées. Enfin, au début, ça a été très laborieux, parce que je me souviens d'avoir travaillé à la première fête des mères 36 heures d'affilée pour reprendre chaque photo et le mettre dans un mail. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, les choses se font plus automatiquement. Comme vous le savez, les caméras, etc., tout ça est facile. Mais le besoin reste le même. Les gens ont envie de savoir ce qu'ils envoient. Car on envoie des choses pour des peut-être un peu moins cérémonieuses. Donc, pour des petites choses très ponctuelles, on sait la fleur qu'aime la personne à qui on l'envoie. Et très souvent, on l'envoie parce que c'est cette fleur-là. Et donc, il faut pouvoir le vérifier.
Alors, vous êtes passé sur Internet et aujourd'hui, les boutiques, vous n'en avez quasiment plus. Je crois qu'il en reste une seule d'aquarelle.
Alors, les boutiques, il en reste qu'une seule, mais on a une manufacture importante qui est dans un village assez petit, puisqu'il fait 140 habitants. On est vraiment dans la France rurale, qui est au nord de Paris.
Vous êtes à Senlis.
Où on emploie un peu plus de monde que d'habitants du village, mais ils ne viennent pas tous du village.
150 personnes, c'est ça,
à
du côté
près,
de Senlis.
Sur l'ensemble, 150 personnes.
Et vous expédiez 700 000 bouquets par an, c'est
oui.
ça
On expédie 700 000 bouquets par an, grâce évidemment à nos prestataires de services, qu'ils aillent du vélo à Paris, puisque 100% de nos livraisons sont faites en vélo à Paris. Aujourd'hui, il y a des vélos partout qui vont livrer à peu près 1500 bouquets sur Paris dans la journée. Heureusement, le temps est beau, parce que sinon, ça n'aurait pas été facile, ou avec d'autres prestataires nationaux pour le reste.
Elisabeth, justement, le marché, il se porte comment aujourd'hui ?
Sans faire de jeu de mots, ce n'est pas florissant. Parce que d'après la Fédération française des artisans fleuristes, entre 2013 et 2015, on a enregistré un chiffre d'affaires de moins 6%. Des postes en moins dans la profession, 2000 postes en moins. Par exemple, pour vous donner une idée, en région parisienne, on recense 1200 fleuristes, alors qu'il y a 5 ans, ils étaient 2500. Mais l'arrivée du digital bouscule un petit peu tout ça et l'activité reprend gentiment.
Que dit notre coach, Catherine Testa ?
Quel est le bilan carbone aujourd'hui d'une production d'une rose ? D'où elles viennent les roses qu'on
offre ? Alors, les études sont très, très pointues là-dessus. Le bilan carbone d'une rose africaine est meilleur que celui d'une rose européenne.
Eh oui.
Bon, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer et c'est le chauffage qui fait du carbone. Après, au fond, la proximité n'est pas forcément toujours un avantage parce qu'il faut aller chercher le soleil. Par exemple, en France, les fleurs dans le midi demandent pas d'éclairage et demandent moins de chauffage. Oui. C'est pas qu'elles demandent pas de chauffage. Et surtout, il y a certaines fleurs qu'on peut faire qu'à certains endroits. Nous, on produit des pivoines. Les pivoines, ça se produit en plein air, donc dans des endroits où on peut avoir des champs assez grands et pas trop chers.
Il y a encore quelques gros secteurs en France, la Bretagne notamment, vous en parliez le midi.
Nous avons ce qu'on appelle notre bouquet du jour, qui est fait exclusivement avec des fleurs de France. C'est essentiellement Anjou, Bretagne, midi et nos propres productions de pivoines. Bon, enfin, la pivoine, ça dure 3 semaines, hein, 3 semaines, 1 mois, donc c'est pas très long. Par contre, c'est pas dur à vendre.
Sur un bouquet comme celui que nous avons aujourd'hui avec nous sur Europe1.fr et que les auditeurs peuvent voir, combien de fleurs viennent de France et combien viennent d'ailleurs ?
Ah, vous avez le wax qui vient de France, vous avez l'œillet qui vient de France, vous avez l'hyzianthus qui vient de France. Par contre, les roses viennent de Hollande, celle-là, parce qu'en ce moment, la production n'est pas suffisante en France, et une partie de feuillage aussi. Sachant que la Hollande est plus près que le midi, donc je pense qu'il faut raisonner européen. Il n'y a pas quand même... Moi, si je mange du riz, je ne demande pas à ce qu'il soit planté forcément en région parisienne. Donc,
Elisabeth, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans les abonnements, par exemple, de bouquets de fleurs. C'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui ?
Oui, ça marche de plus en plus, puisque aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que 70% des commandes de fleurs, elles se font en ligne. Alors, vous avez Bergamote, c'est français. Vous en avez d'autres qui nous viennent d'ailleurs. Vous avez le néerlandais Blue Moon, Florescence, Bloom & Wild. Ce sont des start-up à chaque fois qui se sont dit, on va revisiter l'univers floral, on va voir comment avec des offres d'abonnement, on peut attirer davantage de clients, un peu comme vous, chez Aquarelle, avec en plus parfois des collaborations avec des créateurs, avec des présentations nouvelles. Et certaines entreprises s'engagent, on parlait de photos, alors d'autres s'engagent sur le diamètre de la composition du bouquet, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de taille.
On reste ensemble, on continue à parler fleurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Le secteur fleuri et de nouvelles pousses arrivent aussi sur le marché. C'est le cas par exemple de Pampa, 2 ans et demi d'existence. A tout de suite.
C'est la Saint-Valentin aujourd'hui et aujourd'hui aussi la France bouge plus que jamais puisque nous découvrons les acteurs français qui secouent le secteur des fleurs. C'est le jour des fleurs hein, aujourd'hui.
Oui.
Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nous sommes nombreux à envoyer des bouquets ou à en recevoir et nous sommes parfois, c'est vrai, déçus du résultat. C'est ce qui est arrivé, je crois, aux créatrices de Pampa. Bonjour Noémie Balèze.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec Emmanuel, vous avez fondé il y a 2 ans et demi maintenant votre propre service de livraison de fleurs parce que vous n'arriviez pas à trouver exactement ce que vous vouliez sur les différents sites à votre disposition. Si je dis ça, j'ai
oui,
bon ?
Oui, non, c'est tout à fait ça. On trouvait ça dommage de ne pas retrouver forcément en ligne l'expérience qu'on peut avoir aussi chez un fleuriste créateur. On entre, on passe la porte.
La composition.
Et il va nous faire une composition surprenante avec les fleurs qui lui tombent sous la main. Et c'est vrai qu'on trouvait que l'offre en ligne était très standard, très classique. On avait envie de mettre un gros coup de pied là-dedans. Donc on se définit vraiment comme des designers fleuristes créateurs. On est dans toute la France aujourd'hui. parce qu'on a réinventé un style de bouquet avec une multitude de variétés, et parfois inconnues, parfois originales. L'idée, c'est d'être surtout surprenant.
Et puis, vous êtes corrézienne, je crois.
Exactement.
Et vous aviez une envie de retour à la nature.
Ah oui, c'est... Exactement. Alors, moi, je suis née entre les fleurs. J'ai grandi là-dedans, donc j'avais une connaissance aussi du sujet très approfondie. Donc, j'avais une volonté. J'ai travaillé quand même 10 ans, moi, dans le développement durable, mais pour l'éco-conception de festivals de musique. Et j'avais ce second tropisme qui était la fleur. Et mon associée, elle aussi, était une créatrice de bouquets et avait besoin de l'exprimer. Donc, c'était une évidence pour nous de le faire en ligne avec... En plus, c'est une marque engagée parce qu'on est quand même une génération biberonnée à certains réflexes qu'on a mis en place très vite, comme la livraison à vélo, entre autres. Et là, on fait aussi du recyclage des déchets. On a des personnes en réinsertion. Enfin, on a tout un pan d'engagement qu'on a mis en œuvre dès le début de Pampa.
Justement, vous dites génération. Vous ciblez une génération en particulier avec vos bouquets, les 25-40
oui.
ans. C'est ça la cible aujourd'hui.
Alors,
pour Pampa,
évidemment, les bouquets sont ouverts à tous et on a aussi beaucoup de mamans, beaucoup de personnes qui reviennent vers nous, surprises d'avoir reçu des bouquets dans un colis bien tenu au frais avec un nouveau style. Mais c'est vrai que notre message, on se disait, mais autour de nous, nos amis ne commandent plus de bouquets. Le style ne leur convient pas. Du coup, dans leur tête, c'était devenu quelque chose d'un peu ringard, un peu passé, alors que culturellement, c'est très fort. On est quand même des messagers de l'amour. On fait passer toute la journée. C'est un réseau de coursiers qui livrent des bouquets pour dire pardon, je t'aime, merci, joyeux anniversaire. Oui, aussi des pardons. Mais notre métier, c'était ça. Et on voulait faire quelque chose avec un bouquet qui parle aux jeunes et de se dire, attendez, on n'est pas figé dans l'offre classique que vous connaissez. On peut, nous aussi, casser les barrières avec des fleurs nouvelles.
Et des fleurs de saison, ça, c'est important. Vous ne travaillez uniquement qu'avec les fleurs qui poussent en ce moment. C'est-à-dire que là, on trouve quoi dans les bouquets de Pampa, par exemple?
Alors, dans les bouquets de Pampa, nous, on a un pris parti de travailler et de privilégier la fleur de saison, c'est-à-dire que du printemps à fin automne...
De saison, mais pas forcément locale.
Pas forcément locale aujourd'hui, parce que notre taille aussi fait que l'offre de fleurs ne peut plus répondre à nos besoins en quantité de fleurs, mais elle est, comme disait justement, elle est européenne, c'est-à-dire qu'on va chercher en hiver des fleurs d'Italie, d'Espagne, donc de France aussi, et de Hollande, de Belgique aussi. On ne va pas aller chercher des roses en Équateur, en Colombie, parce qu'en plus, on parle de local, mais il faut parler aussi des questions
du
traitement.
Mais vous aimeriez aujourd'hui pouvoir
Évidemment.
Acheter uniquement local?
Évidemment, c'est-à-dire que dès que la saison nous le permet et dès qu'on arrive au printemps, 98% de nos bouquets sont composés de fleurs locales et on travaille avec des producteurs. C'est évident et on espère de plus en plus que ce changement va devenir systémique et va aussi toucher aussi bien l'offre, les producteurs qui vont s'engager sur des circuits courts et un traitement aussi des fleurs. J'insiste là-dessus parce que c'est très très important cette question.
Sur les pesticides notamment.
Exactement. Et il y a aussi la question du client en face. Est-ce qu'il est prêt à acheter un bouquet qui ne soit pas un bouquet 100% composé de roses, qui ne soit pas un bouquet avec des lys en dehors de la saison des lys? Et ça, nous, on a un travail d'éducation aussi. Et finalement, quand on a créé Pampa, c'était dans le cahier des charges avec mon associé de se dire, on va créer un bouquet unique qui change toutes les semaines. C'est-à-dire que le client a un choix unique et il va juste avoir la taille à choisir, à la différenciation. Et ce bouquet unique nous permet d'être très élastique à ce que le marché a à nous proposer selon les saisons.
Que dit notre coach, Catherine Testa?
Vous vous êtes beaucoup développée avec les réseaux sociaux, notamment
oui.
Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez des ateliers pour expliquer aussi qu'est-ce que sont les fleurs aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une fleur dure plus longtemps dans un vase? Est-ce que vous mettez un peu de lien en fait au digital?
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que le digital, on a vite cette frustration de ne pas voir les clients. On les a qu'à travers des échanges de messages, des tags Instagram, etc. Donc très tôt, on a ouvert un second lieu qui s'appelait le Pampa Club. Aujourd'hui, tous nos ateliers, on accueille les gens dans nos ateliers, au cœur de nos ateliers, pour venir apprendre à faire des bouquets, parce qu'on avait vraiment l'objectif d'être très transparent, parce qu'on avait la frustration de se dire, aujourd'hui, les fleurs qu'on voit en ligne, elles sont faites comment? Est-ce que ce sont des gens avec des choucroutes sur la tête qui sont en train de faire des bouquets avec des gants en silicone blanc? Non, nous, c'est des artisans et donc on peut aller aujourd'hui sur notre page Instagram voir sur une story qui a fait le bouquet. Est-ce que c'est Julieta? Est-ce que c'est Laura? Est-ce qu'il y a des histoires? Il y a des hommes, des femmes, ils rigolent. Enfin, on voulait avoir vraiment une distance très très courte avec nos clients, même en digital.
Vous êtes combien aujourd'hui justement?
Alors aujourd'hui, on a 20 employés. Et après, on fait aussi appel à des fleuristes qui vont travailler avec nous et travailler avec d'autres fleuristes qui ont fait le choix d'être indépendants pour travailler, par exemple, sur des mariages en été. Et c'est bien parce que ça amène aussi différents types de créativité et on forme aussi nous-mêmes certains fleuristes.
Oui, parce que vous êtes longtemps resté uniquement à Paris et là, maintenant, depuis le mois de septembre, vous êtes
partout
en France.
Maintenant, on livre partout en France. On a développé une boîte assez technologique qui en fait, va conserver le bouquet à l'horizontale dans, je ne sais pas, utiliser le mot de bulle d'eau, parce que c'est vrai qu'Aquarelle a été le grand inventeur de la bulle d'eau.
Qui l'a lancé, on est d'accord.
Mais voilà, on va entourer le bouquet, en tout cas, d'une mousse imbibée d'eau. Et pour l'instant, on a eu zéro retour client sur la qualité de cet emballage, parce qu'il y a une surprise, l'emballage est tellement fleuri quand on l'ouvre, c'est un peu déjà une fête, une célébration, et les gens sont très contents.
Elisabeth, on voit qu'il y a une concurrence qui s'organise sur le web. Est-ce que les petits fleuristes réagissent? Est-ce qu'on a des données?
Alors, les fleuristes de quartier doivent déjà non seulement composer avec la concurrence digitale, mais aussi avec la baisse du pouvoir d'achat. Donc, on achète moins de fleurs quand on doit compter les sous à la fin du mois. Donc, ces fleuristes, ils sont obligés d'essayer de rentrer dans le digital, qui était devenu indispensable. Et la provenance des fleurs, c'est ce qu'on est en train de développer depuis tout à l'heure, ça devient un argument majeur pour vendre. Il y a un label, Made in France, qui avait été évoqué il y a quelques années. Mais le cahier des charges était tellement complexe que finalement, c'est resté sans suite. Est-ce que ça revient?
C'est Fleurs de France.
Fleurs de France, désormais,
François de Meublanc.
Le cahier des charges est assez complexe, mais c'est pour s'assurer qu'elles viennent bien de France. Donc, forcément, quand on veut qu'un label gagne la confiance, il faut qu'il soit assez strict. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà, toutes les dérives. Donc, il y a un label, Fleurs de France. Alors, son look est moyen, mais par contre, le fond est bon.
Oui, il y a peut-être des choses à revoir aussi sur le label. On reste ensemble, on continue à parler fleurs aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On a tous eu en main le bouquet cueilli par notre fille ou notre fils avec des fleurs des champs. C'est un peu en s'inspirant de ce concept qu'est né Fleurs d'ici. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et en ce jeudi de la Saint-Valentin, aujourd'hui, grâce à vos invités, Raphaël Duchemin, nous découvrons les acteurs français qui secouent le secteur des fleurs. Vous pouvez réagir. Il y a déjà des réactions et des questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
J'espère bien.
Et au 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute, Raphaël.
Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un marché de la slow flower. Comme aujourd'hui, on ne mange pas de tomates en plein hiver, eh bien, on n'a pas de roses non plus, en théorie, au mois de février, si on veut que la fleur, en tout cas, soit naturelle. C'est une autre manière de voir les choses et c'est la vôtre, Hortense Aran. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Fleurs d'ici il y a un an et demi maintenant. On peut dire clairement aujourd'hui qu'il y a 9 fleurs sur 10 qui sont importées, qui viennent de pays, notamment en voie de développement. Et vous, vous avez envie de stopper ce mouvement?
En fait, aujourd'hui, c'est presque 2 exploitations sur 3 d'horticulteurs qui ont fermé dans les 40 dernières années. Donc ça implique un certain nombre d'impacts négatifs, notamment évidemment des pertes d'emplois, mais aussi une perte de la biodiversité, une perte des surfaces agricoles, une perte des savoir-faire aussi. Donc il y a tout un pan de notre économie qui est en train de disparaître. Donc au-delà évidemment des questions environnementales qui sont en jeu, parce que il y a l'impact carbone de la production, sous serre, chauffé, éclairé 24 heures sur 24 dans le cas de la Hollande, du transport quand on parle des fleurs qui viennent du Kenya, de Colombie, d'Équateur. Mais voilà, au-delà même de ces questions environnementales, il y a aussi une question économique de protection du territoire dans le sens du Made in France.
Ça veut dire qu'il faut avoir aujourd'hui une autre éducation finalement, y compris sur les fleurs, une autre manière de voir les choses?
Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est une ineptie. Enfin, si vous servez des fraises au mois de décembre, vous passez pour un ringard. Enfin, c'était avant l'exotisme, c'est les choses qui venaient de loin, c'était le luxe, c'était super premium. Aujourd'hui, faire ça, ça n'a plus aucun sens. Je pense que, voilà, comme je disais, si vous servez des fraises au mois de décembre, vous passez vraiment pour un
ringard. Vous dites d'ailleurs, et je pense qu'on aura un débat là-dessus, mais que dans 20 ans, ce sera totalement dépassé d'offrir une rose à la Saint-Valentin.
Ah, mais moi, j'en suis persuadée, parce qu'en plus, c'est des habitudes de consommation que l'industrie a mis dans la tête des gens, mais qui n'ont aucune raison d'être.
C'est une question de génération aujourd'hui.
C'est une question de génération et c'est une question aussi de façon dont la filière industrielle fonctionne. De la fleur, en fait, pour des entreprises qui font de la fleur sur Internet et qui ont besoin d'avoir des séries de fleurs importantes, puisque ça veut dire que quand vous achetez un bouquet sur catalogue, il faut bien que le fournisseur il ait suffisamment de fleurs pour réaliser les X milliers de bouquets qu'il va réaliser pour vous. Ça implique de travailler avec des producteurs qui sont capables de vous fournir cette fleur super standardisée. Et voilà, indépendamment de la façon dont elle a été produite.
Donc quand on vient chez Fleurs d'ici, on a parlé du bouquet fait par nos enfants avec les fleurs des champs. C'est un peu ce qu'on va trouver chez vous finalement. Vous êtes l'intermédiaire. On passe commande chez Fleurs d'ici, mais ce sont des producteurs, des fleuristes locaux qui vont réaliser le bouquet.
En fait, nous, on s'est dit le digital pour vendre des fleurs sur Internet, c'est super. Mais il y a une autre façon d'utiliser le digital. C'est ce qu'on appelle le mouvement Tech for Good, donc la tech au service du bien commun. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement agrégé tout un tas d'acteurs, des producteurs, mais aussi des fleuristes d'excellence, des fleuristes qu'on a sélectionnés grâce à Instagram, autre outil digital. Donc on sait que c'est des gens qui travaillent avec une direction artistique impeccable et auxquels ensuite qu'on peut mettre en lien, grâce au digital une fois de plus, avec des producteurs. Parce que la plupart des fleuristes souhaiteraient travailler avec de la fleur locale. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Pourquoi ? Parce que la filière hollandaise des fleurs a complètement cassé ce lien, a complètement cassé ce marché. Donc si vous êtes... Nous, on s'est dit, il y a quelque chose à faire le jour où... Le même jour, un fleuriste de Bordeaux nous a appelé en nous disant « Est-ce que je peux vous acheter des fleurs ?» Et un producteur qui était à 10 km de Bordeaux nous a dit « Est-ce que je peux vous vendre des fleurs ?» On s'est dit « Non, c'est pas possible. »
Aujourd'hui,
il existe des solutions qui font qu'ils doivent pouvoir se parler.
Et vous avez mis en place, c'est intéressant, une blockchain, justement pour que nous, consommateurs, on puisse savoir comment tracer la fleur, comment tracer le bouquet, savoir où il a été produit, d'où il vient, ce qui a été utilisé. On parlait tout à l'heure des pesticides.
Alors, moi, je pense que, comme je vous le disais juste avant, le consommateur, déjà aujourd'hui, mais à plus forte raison dans 10 ans, il va vouloir scanner son produit avec son smartphone dès qu'il va l'acheter. Et il veut que son produit lui raconte une histoire, qu'on sache. Les fleurs, elles ont été produites dans le bouquet que je vous ai apporté. Il y a des fleurs qui ont été produites
par
Karine qui fait de l'hélébore à Mandres-les-Roses, donc en grande banlieue parisienne. Vous avez des œillets qui ont été produits sur l'île Saint-Denis, donc dans le 93. On est vraiment tout proche du centre de Paris. Enfin bref, toutes ces fleurs, elles ont une histoire à raconter. La blockchain, c'est un outil de traçabilité et de transparence parfait qui fait que demain, vous pourrez savoir où, quand, comment, quelle partie de la valeur est arrivée à qui, puisque nous, on est aussi dans une idée de la rétribution équitable de chacun.
Que dit notre coach, Catherine Testa ?
Aujourd'hui, les entreprises, elles réfléchissent beaucoup à leurs responsabilités sociétales. Est-ce qu'elles vous soutiennent dans cette démarche ? Par exemple, on a des bouquets d'accueil dans les grandes entreprises. Est-ce qu'elles sont justement intéressées par ce système de traçabilité que vous proposez ? Est-ce que c'est un enjeu pour eux également ?
Absolument. En fait, aujourd'hui, les grandes entreprises sont et vont de toute façon l'être par la loi très prochainement, obligé de faire de plus en plus d'achats responsables. Alors des achats responsables, pour moi, c'est juste l'achat normal, c'est le bon sens. Mais il se trouve qu'effectivement, on avait pris dans les 40 dernières années des façons de consommer qui n'étaient pas forcément en ligne avec les enjeux ni économiques ni environnementaux. Ça, je pense que c'est terminé. Et donc effectivement, chaque entreprise, la plupart des entreprises, mais même les hôtels, les restaurants, enfin voilà, beaucoup... Tout le monde a des fleurs à l'accueil. Et ces fleurs, si on peut les signer, si on peut dire d'où elles viennent, comment elles ont été produites, etc., évidemment, c'est une bonne façon de marquer son engagement d'entreprise au service de l'environnement.
On reste ensemble et on va débattre maintenant, si vous le voulez bien, sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi, 39-21, venez nous dire comment vous choisissez vos fleurs. On vous attend, c'est la France qui bouge.
Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et le cadeau qui va le plus s'offrir, ce sont les fleurs. Nous découvrons aujourd'hui, grâce à vos invités Raphaël Duchemin, les acteurs français qui secouent le secteur des fleurs. Et vous pouvez leur poser des questions, c'est maintenant que ça se passe. 39-21, c'est le standard. Et on lit également vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ils sont là, ces acteurs. François de Maublanc, cofondateur d'Aquarelle, pionnier, c'est vrai, de la livraison de fleurs sur Internet. Noélie Balèz, cofondatrice de Pampa, les fleurs de saison, livraison à vélo. Vous aussi, évidemment, aujourd'hui, François. François de Maublanc. Hortense Aran, fondatrice de Fleurs d'ici, les fleurs locales et de saison. Avec nous, Elisabeth Assaïg, bien sûr, et notre coach aujourd'hui, Catherine Testa. Je vais peut-être me tourner vers vous, Elisabeth, parce qu'on s'aperçoit que les fleuristes sont en train aussi d'élargir leur gamme. Hein. Ah, Il y a de plus en plus de produits, on ne trouve
petit
pas que
petit.
Des fleurs.
Alors, je crois que ça a commencé avec Aquarelle. Aquarelle qui proposait des bouquets accompagnés de bougies, de boîtes de chocolat. C'est Interflora qui vous a suivi pour se diversifier quand ils ont vu que ça marchait et que surtout les ventes de fleurs commençaient à diminuer. Ils se sont mis à proposer d'envoyer des bouquets accompagnés de bouteilles de champagne, de chocolat et plein d'autres choses.
Ça veut dire aujourd'hui, François de Maublanc, qu'il faut un complément au bouquet, que ça peut relancer l'activité ?
Bon, il ne faut pas perdre de vue son métier de base. Faire un bouquet de fleurs, ce n'est pas facile. Donc, il faut continuer à travailler notre métier de base et ajouter éventuellement quelque chose, notamment la bougie, les parfums de fleurs, ça nous connaît. Donc, on a travaillé nos propres parfums avec une parfumeuse. Mais n'oublions pas le métier de base qui est de faire des bouquets. Et les fleuristes sont irremplaçables là-dessus parce que si vous voyagez un peu, vous apercevrez qu'on est probablement le pays au monde où il y a le plus grand nombre de bons fleuristes.
C'est la même chose pour vous, hein, Noélie. Vous faites des bouquets séchés, vous faites des bouquets sous cloche et vous faites aussi des vases, vous proposez des vases. Oui. C'est-à-dire tout l'univers qui tourne autour de la fleur.
Exactement. Nous, notre positionnement, c'est le cadeau fleuri qu'on redesign, qu'on réinvente. Et avec une direction artistique très très propre à Pampa, à notre marque, un univers très coloré, urbain, joyeux, fun, avec beaucoup d'humour aussi. Et finalement, on s'est dit à un moment, on va designer notre propre vase qu'on a fait faire à Milan, par un artisan à Milan, parce qu'il y avait aussi une grande quantité. Et c'est des vases en céramique. Et on est aussi parti sur des collaborations, parce que ça nous permettait d'être un peu curateur aussi de marques qu'on aimait bien. On a Coucou Suzette, Papier Tigre, là on a Cœur Paris qui brode des bouquets Pampa sur leur t-shirt qu'on vend en ce moment. Et là, on va sortir une collaboration avec Mode Trotter, qui est une marque française de vêtements français. Donc voilà, nous, ça nous permet aussi de mettre en avant des collaborations
le
un peu drôles
possibles.
Et originales. Oui.
Une question peut-être de notre coach.
Comment est-ce qu'on éduque les gens à arrêter de consommer peut-être de la rose à la Saint-Valentin ? D'où vient cette histoire de rose de Saint-Valentin d'ailleurs ?
Ah, bonne question.
En fait, c'est comme une question c'est des habitudes de consommation, que l'industrie de la fleur a donné aux gens, mais ça ne repose absolument sur rien. C'est comme, c'est ce que je disais juste avant, on a voulu expliquer aux gens qu'il fallait consommer des choses exotiques, lointaines, que comme c'était hors saison, c'était super, parce que c'était ça l'optimum, le luxe ultime, c'était d'avoir quelque chose qui était hors saison. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les générations ont changé et les façons d'appréhender les choses ont changé.
Je vois poindre le débat sur la rose, parce que François de Maublanc, au nom de la rose, c'était vous,
non,
avec Dany notamment.
C'est pas tellement ça, vous savez, c'est surtout éduquer les gens sont des termes qui me font un peu peur, moi, peut-être parce que je suis plus âgé.
Qu'est-ce qui vous
ici,
dérange dans...
Quand on veut éduquer les gens, jusqu'où on les éduque, jusqu'où. Par contre, je préfère ce que dit ma voisine, c'est elle explique, elle propose.
C'est vrai.
Et puis après, les gens, petit à petit, choisissent différemment. Et je crois que c'est vers ça, mais on n'a pas vocation à commander les gens. On a vocation à leur proposer d'autres choses, à leur expliquer les enjeux et puis quand même les laisser choisir. Parce que c'est quand même un plaisir, la rose. Si on le perd, ils achèteront un plaisir avec autre chose dans 10 ans ou 15 ans.
Oui, après, je suis d'accord avec Hortense que à mon avis aussi, dans 10 ans, comme les fraises, la rose, on n'en utilisera pas. Et c'est pour ça que...
Pas en février, en tout cas. On en a entre mai et novembre.
Sans parler d'éducation, c'est vrai que nous, on a un peu forcé là-dessus la main aux consommateurs qui viennent sur notre site et ils achètent ce qu'il y a et ce qu'on a trouvé. Et c'est pour ça qu'on change chaque semaine aussi, parce que c'est très, très...
Mais ça nous ouvre les yeux sur autre chose.
Exactement.
Alors, Elisabeth.
Alors justement, oublions la rose, c'est la Saint-Valentin, on offre quoi ce soir ?
Eh bien, en fait, il existe. C'est pour ça que moi, je pense qu'on peut tout à fait consommer des trucs super.
Mais quoi ?
Des tulipes, déjà. Et les tulipes, c'est pas forcément
Des chrysanthèmes, mais c'est très beau, le chrysanthème.
Les chrysanthèmes, c'est magnifique, mais c'est déjà un petit
peu... C'est déjà passé.
C'est plutôt en novembre.
C'était en novembre.
Ça va vite.
Merci, Thomas. Mais il y a des tulipes, et il y a des tulipes magnifiques. Il y a des tulipes qui ressemblent à des pivoines, il y a des tulipes frangées, perroquets. Enfin, il ne faut pas s'imaginer que dans les variétés, il y a 1000 variétés.
Mais la tulipe, elle est moins chère que la rose. Donc vous n'avez pas forcément intérêt à vendre de la tulipe chez Aquarelle.
Non, la tulipe du Var n'est pas moins chère que la rose. Elle est d'ailleurs absolument sublime. Mmh. Elle se vend malheureusement de moins en moins, pas seulement parce qu'il y a moins de production. Moi, je fais 4 fois par an, je vais visiter les producteurs dans le Var. Ils ont du mal à trouver un débouché sur leur tulipe qui est d'une beauté incroyable, qui prend des formes au bout de 3-4 jours admirables, mais qui effectivement est un peu chère. Elle les vaut largement, mais les gens, on ne peut pas leur demander de dépenser plus que ce qu'ils ont non plus.
On a quelques messages, Anissa,
oui,
sur
alors,
Twitter notamment.
On
avec
a des fleuristes qui nous écoutent en travaillant, puisqu'il y a Souéla qui nous dit « Je travaille dans des serres d'orchidées dans le sud à Hyères. Voici une photo de nos compositions. La composition est magnifique si vous aimez les orchidées
c'est très
blanches.
Beau, c'est très beau.
Allez sur Twitter avec le hashtag Europe 1, vous verrez cette très belle photo de Souéla. Et puis il y a Marc qui nous dit « Site internet ou petit fleuriste du coin, le problème récurrent, c'est toujours la livraison à la bonne heure avec les fleurs. »
Vous êtes d'accord ?
Ah oui, c'est la fameuse logistique du dernier kilomètre, je pense que c'est un problème pour nous, mais c'est un problème pour tous les gens qui font du frais.
Quand je vous dis que les fleuristes ont du bon sens, ce monsieur a du bon sens.
Oui, 22 millions de bouquets vont partir dans nos maisons, dans nos vases, d'ici la fin de l'année. C'est une grosse consommation aujourd'hui en France. On a parlé fleurs aujourd'hui avec vous. Merci d'être venu sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle est née à Nantes en 1922. Aujourd'hui, Armor est devenu un véritable géant français. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et il est temps, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et elle fait beaucoup de choses, cette entreprise, aujourd'hui.
Oui, et cette entreprise, figurez-vous qu'elle fabrique entre autres de l'encre, des codes-barres. C'est Armor, la nantaise. Bonjour Hubert de Boisredon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Armor. Si on rembobine le fil, tout commence en 1922 avec le fameux papier carbone qu'on mettait dans nos machines à écrire avant, évidemment, à l'ancienne.
Absolument.
La marque, elle arrivait Armor en 25, quelques années après.
Armor, en fait, c'est le nom de la Bretagne. Et à Nantes, en 1922, était au cœur de la Bretagne, donc ça a été tout naturellement le nom de l'entreprise.
Alors, on va faire un saut, un bond en avant. On va passer dans les années 80, parce que là, vous allez faire une première découverte, le transfert thermique. Vous êtes la toute première société, je crois, en Europe à en être dotée de ce fameux...
Armor, si vous voulez, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'innovation. On a créé le papier carbone, ça s'appelait l'Armor. Et puis ensuite, il y a eu les rubans de machine à écrire, les stencils, vous savez. Bon, et puis les cartouches jets d'encre, les cartouches laser que l'on fabrique toujours pour les entreprises.
Oui, ça, c'est dans les années 90.
Voilà. Et puis, il y a eu les rouleaux de fax. Vous vous rappelez, ces rouleaux de fax, ils sont des rubans, enfin des films ancrés. Et sur ce principe-là, Armor est devenu leader mondial des rubans transfert thermique qui sont des consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code-barre notamment, tout ce qui est impression variable sur emballage.
Et c'est à ce moment-là que vous arrivez vraiment dans la cour des grands, la cour internationale. Vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous allez au Brésil et vous vous installez.
On va partout. En fait, on a un modèle qui est que nous fabriquons ce qu'on appelle les semi-finis, qui sont des grosses bobines ancrées à Nantes. Et nous terminons les produits à proximité des clients. On est présent dans 20 pays sur les 4 continents. Donc Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Colombie maintenant, Afrique du Sud, Inde, Singapour, Chine, Japon.
2000 personnes à travers le monde, voilà. Et 700 à Nantes. Tout part d'ici en fait. Plus on travaille à l'international et plus ça fait grandir le groupe. Ça donne du travail ici dans la région nantaise et ça en crée aussi...
Tout à
dans
fait.
Les différents points
tout
du monde.
Tout à fait. C'est un peu le miracle de ce qu'on appelle cette co-industrialisation.
Vous dites anti-délocalisation, c'est
ça ? C'est un modèle anti-délocalisation. Parce que, c'est-à-dire que quand on prend un marché en Chine, au Canada ou au Brésil, en fait, ça vient tirer la production de nos grosses bobines semi-finies à Nantes. Et donc, on crée de l'emploi à Nantes. C'est-à-dire que plus on s'étend à l'international, plus on développe l'emploi ici.
Alors, vous faites beaucoup de choses, on le disait dès le départ, mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante, parce que vous avez senti que les choses bougeaient après le Grenelle de l'environnement. Vous vous êtes dit, il faut qu'on se mette justement sur ce marché du renouvelable, de l'énergie. Mmh. Et vous avez créé le film photovoltaïque accessible à tous. Ça y est, il est commercialisé.
Oui, absolument. Mais j'ai été très impacté par, à l'époque, par le film La vérité qui dérange d'Al Gore. J'ai pris conscience de l'état de la planète et mes équipes aussi.
On est en 2008.
En 2008, c'était le Grenelle de l'environnement. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Notre savoir-faire, c'est d'enduire des films minces, de couches minces. Et on s'est dit, est-ce qu'avec ça, on ne peut pas réinventer les matériaux photovoltaïques? On a inventé un film ultra mince, ultra souple, translucide et surtout qui est sans silicium ni métaux rares. Pour couvrir toute surface, en fait, et notamment les toits fragiles, les bâches, les vitres, toutes les surfaces qui ne peuvent pas être couvertes par des panneaux classiques. Et oui. Ce film pèse 30 fois moins lourd.
Y compris pour le particulier, ça va fonctionner aussi.
Bien sûr, à terme, oui. À terme, oui.
Une question de notre coach, Catherine Testa.
Vous parlez beaucoup d'innovation et vous faites aussi beaucoup d'innovation sociétale à l'intérieur de votre entreprise. Vous êtes très inclusive, vous parlez d'handicap. Oui. Quelles sont vos démarches aussi en interne? Parce que ben, effectivement, le développement durable, c'est à l'externe. Qu'est-ce que vous faites en interne pour vos employés et autres?
Alors, si vous voulez, pour nous, c'est très important de développer déjà un management par la confiance.
D'accord.
C'est un peu dans nos gènes. Et de travailler à la promotion des compétences. On a, si vous voulez... Pour rester compétitif en France, nous avons dû moderniser l'usine, automatiser, robotiser, au fur et à mesure que l'on gagnait des parts de marché.
Vous ouvrez d'ailleurs une usine 4.0.
Et voilà, et on a une usine 4.0 et on a construit, en fait, on a bâti une université dans l'usine. Et ce qui fait que le personnel qui était avant manœuvre manuelle dans l'usine, maintenant devient pilote de machine robotisée avec des diplômes CAP, BEP, Bac plus 2, Bac plus 3, reconnu par le ministère du Travail. Et donc, ça permet une vraie promotion de l'ensemble du personnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On accueille aussi une cinquantaine de personnes ayant un handicap, parce qu'on croit que la fragilité, loin d'être un problème, est une chance. En fait, la personne qui a un handicap, finalement, nous aide à constituer des équipes qui osent se dire les uns les autres qu'elles ont besoin de l'autre.
C'est important, effectivement, et on ne peut pas tout dire parce que vous faites tellement de choses, mais c'est l'entreprise qui va bien. Merci. Je précise que vous faites aussi des collecteurs de courant pour batteries. Ça va intéresser notamment, évidemment, le pays parce qu'on est en train de travailler autour de la voiture électrique. Et puis, c'est important parce qu'on consomme beaucoup. Vous recyclez les cartouches d'encre 100% recyclées, et ça, vous le faites déjà depuis plus de 10 ans. Merci d'être venu nous parler du groupe Armor. C'est l'entreprise qui va bien.
Merci beaucoup.
Il est 13h48.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous hésitez entre un papillon et un tribal? Vous voulez connaître tout de votre tatoueur avant de choisir? La solution aujourd'hui, c'est Find My Tattoo.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, tous les jours, vous nous proposez la solution du jour, Raphaël. Et aujourd'hui, elle vient dans le cadre du lancement du Mondial du Tatouage. C'est demain à Paris.
Eh oui, Elisabeth, vous avez trouvé une entreprise qui permet aux futurs tatoués de trouver le bon tatoueur pas loin de chez lui. Ça s'appelle Find My Tattoo. En français, ça donne Trouve ton tatouage.
Trouve ton tatouage, vous le savez peut-être, mais le secteur du tatouage, ça cartonne, c'est en pleine croissance. Aujourd'hui, 14% de la population française est tatouée et on estime à 40 000 le nombre de tatoueurs en France. Mais j'ignore, peut-être l'un d'entre vous a déjà essayé de trouver un tatoueur. Essayez, hein, tapez tatoueur sur internet, sur n'importe quel moteur de recherche. C'est pas évident à trouver, c'est difficile de choisir, de faire confiance parce que ça implique un acte quasiment médical. Avec Find My Tattoo, vous allez pouvoir trouver, grâce à la géolocalisation, des catalogues et des livres de style de chacun des artistes tatoueurs autour de chez vous.
Bonjour Wassima Garouani.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Find My Tattoo. Comment elle vous est venue, cette idée de finalement simplifier le parcours de celui qui a envie de se faire tatouer?
Alors l'idée est venue de manière très naturelle, le jour où moi j'ai décidé de me faire tatouer.
Évidemment, ça part souvent d'une expérience personnelle.
Oui, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, j'avais beaucoup réfléchi à comment construire le dessin du tatouage, mais au moment de chercher le tatoueur, j'ai réalisé que, comme vous disiez plus tôt, il est très difficile de trouver le bon tatoueur qui correspond à son style, à ses envies, à sa personnalité aussi. Et en posant la question à plusieurs amis autour de moi, il s'est avéré que le problème était général.
Oui, le bon pour vous ne va pas être le bon pour moi.
Absolument, parce que peut-être qu'il y a des divergences, enfin, il y a forcément des divergences de style, de manière de faire, mais aussi de personnalité.
Alors, comment vous vous y êtes prise? Vous vous êtes dit quoi quand vous avez finalement trouvé votre tatoueur?
J'ai finalement trouvé mon tatoueur, ma tatoueuse.
Ah, et il paraît qu'on est très fidèle d'ailleurs au tatoueur.
Alors, ça dépend des personnalités, encore une fois. Ça dépend si vous avez besoin de refaire les mêmes styles de tatouage, si vous avez envie de tester autre chose. Exactement.
Alors, comment vous vous y êtes prise? Qu'est-ce que vous avez fait pour monter votre entreprise?
J'ai fait une étude de marché en posant des questions autour de moi, en essayant de creuser le problème, essayer de comprendre si tout le monde est confronté à ce problème-là. Et puis j'ai échangé avec Jennifer, qui est devenue par la suite mon associée, qui elle aussi était confrontée exactement au même problème. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, il y a un besoin, on a du mal à trouver une solution, il faudrait peut-être creuser pour essayer de comprendre si le problème est ressenti côté tatoueur également.
Il s'avère que
si, et c'est le cas. Là aujourd'hui, on a la chance d'être entouré, accompagné par des super tatoueurs qu'on a identifiés sur leur éthique de travail, sur leur style, sur leur méthode de travail.
Donc ceux qui se trouvent sur Find My Tattoo, ils ont été vérifiés, ils sont presque entre guillemets certifiés par vous.
Ils sont certifiés par nous, c'est des tatoueurs qu'on a choisis parce qu'on les admire. Parce qu'on admire leur travail, parce qu'on aime beaucoup leur manière de travailler, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux. Donc ceux qui sont pas encore sur Find My Tattoo, parce que la plateforme sera lancée officiellement le 1er avril, mais ceux qui seront dessus sont certifiés par nous, c'est des tatoueurs qui sont très à l'écoute, qui ont envie d'améliorer l'expérience de leur utilisateur, enfin de leur utilisateur, excusez-moi, de leur client,
oui.
qui sont friands des retours de leurs clients et qui sont totalement à l'écoute de nous, de Find My Tattoo en tout cas.
Catherine.
Et ça sera une sorte de trip advisor. On évaluera une fois qu'on a été faire un tatou, on mettra une petite note. Qu'est-ce qu'il y aura derrière comme fonctionnalité sur cette plateforme?
Alors, je ne me permettrai pas de comparer à TripAdvisor. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voudrait faire, effectivement, c'est j'essaie de concrétiser un peu les choses. Donc, je prends votre exemple, Raphaël.
Oui, allons-y.
Supposons que demain, vous ayez envie de vous faire tatouer à partir du 1er avril. Donc, vous tapez findmytattoo.fr.
Moi, je veux me faire tatouer la Corse sur le bras, par exemple.
Eh ben, c'est une excellente motivation de tatouage. et donc, si demain vous avez envie de vous faire tatouer la Corse, le drapeau de la Corse ou l'île de la Corse sur le bras, vous tapez Find My Tattoo sur votre navigateur. Vous arrivez sur une galerie d'images. Là, en plus vous naviguez, plus la galerie vous proposera des images plus pertinentes par rapport à votre style, vos besoins, votre recherche.
Le prix aussi ?
Le prix, c'est encore en réflexion, mais ça peut être effectivement une bonne piste. Ça peut être une bonne piste effectivement de réflexion. Nous, on ne conseille pas de choisir son tatoueur sur le prix, mais plus sur la qualité et sur l'échange qu'on a eu avec lui ou avec elle.
Et vous allez vous rémunérer comment avec ça?
Alors nous, on imagine un modèle qui se fonde sur un abonnement mensuel. Qui seraient payés par les tatoueurs pour être donc référencés, mais aussi orientés vers des projets, pas des projets lambda, mais des projets qui conviennent parfaitement à leur style de travail.
Et ce sera lancé au mois d'avril. Merci d'être venu nous présenter Find My Tattoo. Merci à Catherine Testa qui était notre coach aujourd'hui. Je vous précise juste, si vous le souhaitez, que vous pouvez revoir toute la cérémonie de des trophées de l'avenir Europe 1 sur la page Facebook et le YouTube d'Europe 1. Ça y est, elle est disponible. Nous, on se dit à demain.
À demain,
nous parlerons
Raphaël.
Manga à la française.
À demain avec Raphaël Duchemin et ses invités.